Chère retraitante, hier je vous ai parlé de la jeune fille française. Aujourd'hui, je voudrais vous parler ce matin de l'épouse et de la mère. Donc chacun sa vocation, donc il y a ici des personnes qui sont jeunes, des moins jeunes, des personnes célibataires, des personnes qui sont mariées, des personnes qui ont des enfants, des personnes qui n'ont pas d'enfants. Donc les cas sont bien sûr très différents, mais je pense que dans une retraite de dame, c'est intéressant de réfléchir à ce rôle d'épouse et de mère. Alors, tout d'abord, parlons du rôle de l'épouse. Il y a tellement de choses à dire dans ce sujet-là que c'est difficile de synthétiser. Alors, on va parler de l'épouse. Dieu a voulu donc donner à Adam donc une compagne, la personne d'Ève. Et là, il est dit dans le livre de la Genèse, donc au moment de la création d'Ève, donc Adam était seul au départ, et Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Donc il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Donc Ève est une aide à Adam, une aide semblable à lui. Donc ça veut dire qu'une épouse, voyez, n'est pas l'esclave de son mari, ni la servante de son mari, elle est une associée, elle est l'associée de son mari, la socia, associée. Et dans le plan de Dieu, s'il est dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, et donc s'il a voulu créer Ève, c'est donc dans le but de créer à l'homme un complément. Ça veut dire qu'il y a un rôle complémentaire entre l'homme et la femme. Il n'a pas créé un deuxième Adam, non, c'est pas deux hommes, il a créé une femme. Et donc chacun va avoir sa mission propre, sa vocation propre, et donc il y a cette complémentarité entre les deux. Et donc dans le plan de Dieu, l'homme va avoir la priorité dans l'ordre du gouvernement et la femme la priorité dans l'ordre de l'amour. Donc nous disons que, quand je prépare les jeunes au mariage, je leur rappelle, que dans le plan de Dieu, donc l'homme est la tête et la femme est le cœur. Alors après, je les rassure les uns et les autres, l'un et l'autre, en disant que quand on dit que l'homme est la tête, on ne veut pas dire qu'il n'a pas de cœur. Quand on dit que la femme est le cœur, on ne veut pas dire qu'elle n'a pas de tête. C'est une question de priorité. Et donc, ça veut dire que l'homme, en tant que tête, doit avoir comme souci, comme préoccupation, comme idéal, le bien commun de toute sa famille, à savoir le bonheur de son épouse et de ses enfants, aussi bien sur le plan naturel que surnaturel. C'est là sa mission. Donc quand on dit que l'homme c'est le chef, ça ne veut pas dire que tout le monde est au service de monsieur. Voyez. Ça veut dire que monsieur, eh bien, il doit avoir le souci de son conjoint et de ses enfants. Et donc la femme, de son côté, alors en tant qu'associée, Elle doit être le soutien de son époux. Elle est là pour le soutenir. Donc elle doit avoir le souci de renforcer, de sanctifier et d'équilibrer l'action de son mari. Voilà le rôle de la femme. Donc elle doit renforcer l'autorité de son mari. Donc elle doit chercher à plaire à son mari. Et pour cela, se rappeler que comme elle n'est pas l'autorité dans le foyer, même si là après on verra une autorité aussi sur les enfants, et même aussi une autorité après dans son domaine propre, elle doit être soumise, c'est un mot qui fait mal, dans les domaines, les circonstances où cela est possible. Ça va ? C'est pas trop... 50 contre 1, c'est pas évident. Hein. Donc, ce mot de soumission fait mal, mais pourtant, il est capital pour le bon ordre du foyer. Donc, au séminaire, vous voyez, je suis le directeur du séminaire. Donc, pour la bonne marche de la maison, il est indispensable que mes collaborateurs, donc mes confrères qui sont mes collaborateurs, donc agissent dans le même sens que moi. Mais ils ne sont pas mes esclaves non plus, ce sont mes collaborateurs. Et bien de même, donc, étant voulu par Dieu comme une aide pour votre mari, vous devez aller dans le sens de l'assistance, un petit peu comme une infirmière vis-à-vis du chirurgien. Donc, vous avez donc un rôle à la fois subordonné et en même temps complémentaire. À noter aussi que l'aide de la femme, souvent, est spirituelle, psychologique, affective. Donc il ne s'agit pas, donc, pour la femme, je l'ai dit, donc, de devenir l'esclave de son mari, ni bonne à tout faire. Vous devez également être pour votre mari une source d'apaisement. Et pour cela, il est important de développer donc, les vertus féminines qui vont vous aider à cela. Donc vous allez avoir un rôle d'apaisement, de pacification, de régulation vis-à-vis des passions, avec une répercussion après, donc efficace sur le travail de votre mari, qui est son châtiment, ne l'oublions pas. Et donc, quelles sont les vertus spécialement qu'il faut développer, qu'une femme doit chercher à développer pour être à sa place, pour être vraiment une bonne épouse? La vertu de douceur, la patience, la charité, la fidélité, la pureté. Donc, il faut essayer, même si ce n'est pas facile tous les jours, d'éviter, par conséquent, d'être un excitant pour l'homme, puisque l'excitation va dans le sens opposé de l'apaisement, que ce soit physiquement ou moralement, que ce soit par exemple en voulant imposer vos vues, en voulant prendre le commandement, en manifestant de l'agacement ou de l'impatience, ou en faisant la morale d'une façon outrancière, ou en contredisant votre mari devant vos enfants. Donc tout cela va dans le sens contraire, normalement, de votre vocation. Alors bien sûr, quand je parle aux hommes, je leur dis autre chose aussi. Hein. Donc, pour les aider eux-mêmes à être vraiment chefs, avoir en vue le bien commun, etc. Donc, ça, c'est important. Parce qu'en général, ce qu'on entend dire, c'est dire oui, mais vous comprenez, avec le mari que j'ai, c'est pas évident. Ah, c'est vrai, je reconnais. Ensuite, vous devez aussi aider votre mari à surnaturaliser ses actions. Donc si votre mari est pieux par nature, eh bien, remerciez-en le bon Dieu. Et s'il ne l'est pas, sachez user de tact pour le rapprocher de Dieu. Il faut savoir que l'homme est particulièrement susceptible sur la question religieuse. Il est presque aussi susceptible sur la question religieuse que sur la question de la politique. Donc il faut, dans ce domaine, les femmes ont souvent raison, mais dans le fond, mais dans la forme, pas toujours, quoi. Et c'est ce qui fait qu'il y a parfois même des hommes qui vont prier en cachette, si vous voulez, parce que si c'est leur femme qui leur dit, mais elle me casse les pieds, donc elle me laisse tranquille. Et du coup, par contre, ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas prier, mais il faut leur donner l'impression que ça vient d'eux. Oui, voilà. Ça, vous savez faire. Enfin, vous pouvez savoir faire. Mais donc, il faut savoir que dans le domaine religieux, c'est vrai, l'homme est souvent susceptible. Donc, il ne faut pas l'aborder de front, parce que sinon, ça produira l'effet inverse de ce que vous recherchez. Ensuite, on dit aussi, et ça c'est quand on prépare les jeunes au mariage, que le secret du bel amour, c'est de chercher à se comprendre. D'ailleurs, souvent les disputes commencent comme ça. Ah ben là, je crois qu'on ne se comprend plus. Donc, se comprendre. Alors un homme me disait, concernant sa femme, mariée depuis 10 ans, il dit « Moi, ma femme, je préfère l'aimer que de la comprendre. » C'est aussi assez bien vu. Hein. Donc se comprendre, ensuite s'adapter, au moins comprendre le mode de fonctionnement de l'autre. Vous voyez. Donc si on ne le comprend pas, au moins on sait comment il fonctionne, on finit par comprendre, enfin par s'apercevoir comment il fonctionne et donc en tenir compte. Donc s'adapter. Ensuite, se faire mutuellement plaisir. Et ça, c'est vrai que les hommes l'oublient trop souvent. Se faire mutuellement plaisir. Et puis, enfin, se donner. Et donc, il faut toujours revenir à cela, donc pour arriver à entretenir l'amour. Donc, il faut se dire que là, pour avoir un beau mariage, donc il faut sans cesse revenir sur ces points fondamentaux. Il ne faut pas croire que on l'a obtenu une fois pour toutes, si vous voulez. Donc, l'amour s'entretient. Et donc, pour cela, il faut chercher toujours donc à se comprendre, s'adapter, se faire mutuellement plaisir, se donner. Et ça veut dire aussi qu'il faut donc toujours rechercher, d'une certaine manière, un petit peu, autant que possible, en tout cas, le bien de l'autre. Parce que si chacun, vous voyez, cherche uniquement son bien ou tire les couvertures à lui, oui, alors t'es allé chez ta mère, alors maintenant j'ai le droit d'aller chez ma mère. Alors, si toute la vie conjugale est comme ça, bonjour. Donc, on dit que pour faire un mariage heureux, il ne s'agit pas de couper la poire en deux, mais de manger la poire à deux. Vous pouvez aussi réfléchir là-dessus. Ensuite, pour assurer aussi cette bonne collaboration, alors c'est plus facile en théorie qu'en pratique, mais c'est intéressant de le noter, il est important de vous voir régulièrement entre conjoints et pas uniquement en présence des enfants. Et c'est vrai qu'au début du mariage, le mari est souvent donc tout à sa belle, bien sûr, mais après, avec le temps, le travail prend plus de place. Comme l'épouse aussi, qui au départ est tout à son mari, et après, quand les enfants sont présents, elle peut aussi être trop près des enfants et négliger aussi le mari. Donc les deux, donc de ce côté-là, on peut avoir des efforts à faire. Donc le mari d'être un peu plus présent à la maison, et la femme de ne pas oublier que si elle est mère, elle est aussi épouse. Donc de bien équilibrer ces deux actions. Donc retenez en tout cas que dans ce rôle d'épouse, pour être aimé, il faut chercher à devenir et à être aimable, et donc à demeurer aimable. Et pour avoir un beau mariage, il faut le construire et le reconstruire tous les jours. Alors après ce rôle d'épouse, maintenant un mot sur le rôle de la mère. Bon, je vous disais que la femme est mère par nature. Qu'elle le soit physiquement ou ensuite après qu'elle le soit d'une autre manière. Mais c'est en tout cas sa nature. Et la preuve, c'est que la maternité, eh bien, que la maternité est bien le rôle de la femme, c'est qu'Ève a été punie par là. Tu enfanteras de la douleur, voilà le châtiment propre à la femme. L'homme, on lui a dit, eh bien, de travailler à la sueur de son front. Tu travailleras à la sueur de ton front. Donc le châtiment de l'homme regarde son travail et le châtiment de la femme regarde l'enfantement. Quand on dit enfantement, il ne s'agit pas uniquement de la mise au monde de l'enfant, bien sûr, mais c'est déjà le cycle de vie qui est présent dans la vie d'une femme qui fait qu'à un certain moment, bon, elle en souffre. Et puis c'est ensuite après tout ce qui touche l'éducation des enfants. Et même après, une fois qu'ils sont éduqués, eh bien, c'est toujours ce souci du devenir des enfants. Donc c'est vraiment là. Bien sûr que le mari en souffre aussi lorsqu'un enfant n'est pas fidèle ou a des difficultés, mais c'est spécialement là, en raison de ce lien plus fort qu'il y a entre la mère et l'enfant, c'est spécialement la souffrance propre, la douleur propre de la femme. Par ailleurs, on voit que la Sainte Vierge, qui est là donc la nouvelle Ève, est essentiellement mère. Elle est mère de notre Seigneur et notre mère à tous. Donc la femme est vraiment mère par nature. Et à ce sujet, je vous dirai ces quelques paroles intéressantes de cette femme dont je vous avais parlé, qui est morte d'un cancer à l'âge de 44 ans et qui a fait des conférences à d'autres épouses dans un cercle de jeunes ménages. Et elle disait ceci. Je n'entends pas souvent parler de la femme vis-à-vis de sa propre dignité. Nous sommes en général très ignorantes là-dessus, par je ne sais quelle fausse et complètement idiote humilité, nous repoussons habituellement cette idée de notre propre dignité, ce devoir de respect vis-à-vis de nous-mêmes. Chacun de nous a un devoir vis-à-vis de sa dignité. Le prêtre a un devoir vis-à-vis de son sacerdoce. Il ne peut pas se comporter n'importe comment. Son sacerdoce ne lui appartient pas, c'est celui du Christ. Eh bien, il y a une dignité de la femme. Elle vient de sa maternité. Même une femme sans enfant est revêtue de cette dignité, comme toute femme qui n'est pas enceinte. C'est parce que la femme est toujours physiologiquement et psychiquement ordonnée pour la maternité. Elle aura donc toujours en elle la possibilité de puiser dans ses dons particuliers. Or, nous vivons habituellement comme si tout cela n'existait pas. Nous passons beaucoup de temps à nous inquiéter de ne pas être parfaites, en regrettant plus ou moins ce que nous rêvons et qui par conséquent n'existe pas. J'ai bien conscience que chacune de nous est un piètre modèle de ce que doit être la femme, l'épouse, la mère. Mais enfin, aux yeux de la société, de notre mari, de nos enfants, nous incarnons la femme, l'épouse, la mère, cette image parfaite que nous le voulions ou non. Comme un catholique au milieu des incroyants reste toujours l'image de l'Église dont il est le membre. Il faut penser à ce sens de la dignité, il faut nous en imprégner, pour qu'ensuite cela porte peu à peu ses fruits. Si vous avez le sens de la dignité de la femme, vous saurez instinctivement comment vous montrer. Si vous avez le sens de la dignité d'épouse, vous saurez instinctivement ce que vous devez inspirer en amour. Si vous avez le sens de la dignité de mère, vous trouverez instinctivement et la fermeté dans votre autorité et la tendresse illimitée, vous saurez tout doser. Si vous n'avez pas le sens de ces dignités, vous serez immédiatement sanctionné. Vous serez enquiquiné dans la rue ou au cinéma. Votre mari se lassera et vous trouvera bobonne. Vos gosses deviendront les gosses, ils vous dépasseront en vous rigolant au nez. Donc c'est une réflexion intéressante et importante, c'est bien de réfléchir à cela. Donc se dire que, en tant que femme, et en tant que vous incarnez la mère, et donc essayer d'avoir ensuite une attitude en conformité avec ce que vous êtes, en fait, ce que vous devez devenir toujours davantage. Comme le prêtre doit se dire, je suis prêtre, en tant que prêtre, eh bien, quelle est l'image que je dois refléter ? Même si, hélas, il y aura toujours un décalage entre l'image et la réalité. Mais il faut toujours avoir cela comme idéal. Donc, en tant que mère, on peut dire que l'épouse est le cœur du foyer. Et à ce sujet, donc, elle a donc un rôle, bien sûr, à jouer auprès de ses enfants, puisque la mère, elle est mère de ses enfants. Et j'ai lu ces dernières années quelques livres qui sont sortis il n'y a pas longtemps, et donc où il y a du bon dedans et du moins bon. Mais deux livres notamment, dont je vous parle comme cela. Le premier est intitulé « Comment vraiment aimer votre enfant ?» du docteur Campbell. Donc il y a des choses à prendre et des choses à laisser. Après, je vous dirai d'ailleurs un petit peu ce qui serait à mettre de côté. Mais qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans ce livre ? Il montre que les enfants ont besoin non seulement de se savoir aimer, mais de se sentir aimé. Et il montre ensuite qu'il y a différentes manières d'aimer son enfant, et il parle d'un amour qu'il va appeler approprié et d'un amour qu'il va appeler, ou de différentes formes d'amour qu'il va appeler l'amour déplacé. Et donc l'enfant a besoin d'être aimé d'un amour approprié pour pouvoir se développer et être ensuite épanoui. Donc qu'est-ce que c'est que l'amour approprié ? L'amour approprié consiste à communiquer à l'enfant son amour en vue de lui donner une éducation saine et d'encourager sa croissance émotive et sa confiance en lui-même. Donc aimer son enfant d'un amour approprié, c'est d'avoir toujours en vue donc, la bonne éducation de son enfant et essayer d'encourager sa croissance émotive et sa confiance en lui-même. Et ensuite, après, il dit qu'il y a au moins trois ou quatre formes d'amour déréglé. Ce qu'il appelle ensuite le désir de possession. Donc, un amour où on cherche, en fait, on se recherche à travers ses enfants. Donc, en fait, on cherche à ramener, à capter donc l'amour de l'enfant pour soi. Au lieu de rechercher le bien de l'enfant, on ramène l'enfant à soi. Donc, une forme d'égoïsme, en fait. Donc c'est ce qu'il appelle le désir de possession. Il dit « Des parents ont tendance à considérer leurs enfants comme un objet ou une propriété acquise, non comme une personne qui a besoin de grandir selon ses caractéristiques propres et de devenir graduellement indépendante et confiante en elle-même. En réalité, il faut encourager un enfant à penser lui-même, à être spontané, à comprendre qu'il est une personne à part entière qui doit assumer de plus en plus de responsabilités. » Donc au fur et à mesure que l'enfant grandit, bien sûr qu'il faut essayer de lui confier plus de tâches pour petit à petit qu'il puisse devenir un homme. Ensuite, après, alors là, bien sûr que je ne vais pas développer cet aspect-là, parce que ça semble évident. Et puis, bon. Ce qu'il appelle le désir de séduction, malheureusement, aujourd'hui, il y a des drames qui se passent dans plusieurs familles, où on chercherait donc des émotions impures au contact des enfants. Après, troisième forme, le désir de vivre par personne interposée. Donc ça existe parfois. Par exemple, bon, un homme qui avait rêvé d'être médecin, donc il veut que son fils soit médecin. Voilà. Donc c'est le désir de vivre par personne interposée. Donc le désir que ses enfants réalisent leur rêve de jeunesse. Voyez. Et s'ils n'y arrivent pas, bien les enfants risquent fort, ils seront pas contents. Et en même temps aussi, s'ils forcent un enfant, alors que ce n'est pas audible depuis sa voix, bien sûr que ça pourra aussi provoquer des désordres. Et puis enfin, et ça arrive malheureusement un peu trop souvent, au moins à certains moments dans la vie, il faut aussi faire attention à cela en tout cas, ce que donc ce docteur appelle le renversement des rôles. Le renversement des rôles, à savoir que par exemple, j'imagine, une femme ne s'entend pas très bien avec son mari, elle a des difficultés, donc elle reporte bien sûr tout son amour vers ses enfants, et ensuite elle va rechercher auprès de ses enfants des consolations. Au lieu de chercher à consoler, c'est elle qui cherche à être consolée. Et donc, c'est ce qu'il appelle le renversement des rôles. Donc, voyez, voici ce qu'il dit. Ce renversement des rôles consiste dans le défaut qu'ont certains parents de chercher auprès de leurs bébés et de leurs petits-enfants des soins affectifs et de la protection. Lorsque des parents sont fatigués, déprimés ou malades, ils désirent que les enfants soient alors réconfortants, rassurants, pleinement mûrs et maîtres d'eux-mêmes. C'est vraiment le monde à l'envers, voyez. Alors, pour prévenir ces écueils, bien sûr que les parents doivent veiller à avoir eux-mêmes une vie équilibrée, tant sur le plan naturel que surnaturel. Maintenant, on voit que ce docteur Campbell est protestant et que dans l'éducation des enfants, il néglige donc l'influence du péché originel, le fait que nous avons une nature qui est blessée. Et puis ensuite, il néglige aussi ce grand mystère de la croix, et donc l'esprit de sacrifice dans l'esprit catholique, qui est capital pour arriver à offrir donc le meilleur de nous-mêmes et à également rentrer dans ce grand mystère de la rédemption pour le salut de nos âmes. Et puis il néglige aussi, bien sûr, les sacrements comme dans le renouvellement intérieur de nos âmes, et qui est capital. Bien sûr, pour arriver à la sainteté, on a besoin des sacrements. On n'arrivera pas à la force du poignet. Alors comme il est protestant, il ne voit pas cela. Mais sinon, c'est quand même ces réflexions-là me semblent très intéressantes. Et après, alors, un autre livre qui va dans un autre sens, mais qui est aussi intéressant, sous un certain rapport, bien que ce soit encore un livre, bon, même plus mauvais dans l'esprit selon d'autres aspects, mais il y a des choses quand même intéressantes à noter. C'est intitulé donc, « Le secret des enfants heureux » d'un certain Steve Bidulf. Donc, dans ce livre-là, il va surtout, lui, insister sur une vérité bon, élémentaire hein, dans l'éducation, à savoir que l'enfant a besoin qu'on lui fixe des limites. Et donc, qu'il ne faut pas croire que c'est en laissant un enfant tout faire que l'enfant arrivera à être épanoui. Donc, tout enfant a besoin qu'on lui fixe des limites. Donc, il a besoin d'une autorité suffisamment forte pour lui montrer les limites qu'il ne doit pas dépasser. Et si on fixe bien les règles du jeu, entre guillemets, et qu'ensuite les adultes respectent les règles qu'ils ont fixées, en ce moment-là, ça se passe très bien. Oui. Donc si on ne fixe pas de règles, eh bien, les enfants ne sont pas épanouis. Et si ensuite, après, on fixe des règles, mais qu'on ne les respecte pas, eh bien, notre autorité, en ce moment-là, en pâtira. Oui. Donc je vous dis ici, j'essaie de retrouver quelques passages de ce livre. Donc, Steve Bidulf affirme que l'une de ses plus grandes surprises en travaillant avec des familles fut de se rendre compte que certains des enfants les plus équilibrés et les plus heureux étaient élevés par des parents qui, à son sens, étaient d'une fermeté incroyable. Le secret était que ces parents, sévères certes, étaient fiables, tellement cohérents que leurs enfants connaissaient les règles et les moyens d'éviter les ennuis. De fait, ils n'étaient que rarement punis. Mais ce qui ressort de plus important, c'est que ces enfants savaient qu'ils étaient aimés et soutenu sans réserve. Pour eux, le rejet était impensable. Ils pouvaient parfois ressentir de la crainte, mais jamais d'angoisse, jamais de sentiment d'abandon. Bref, un règlement strict plus de l'affection positive. Et je pense que l'un sans l'autre n'aurait pas marché. Donc il dit donc deux choses pour que la réussite de l'éducation. Il parle donc de bien fixer des repères pour que l'enfant sache très bien ce qu'il doit faire et ce qu'il ne peut pas faire, mais en même temps aussi, après, de l'affection positive. Parce que si on réduit l'éducation à un règlement, alors c'est sûr qu'à ce moment-là, l'enfant a besoin de se sentir aimé, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure, et donc s'il ne le ressent pas, eh bien à ce moment-là, il n'arrivera pas non plus à être pleinement épanoui. Oui. Alors après, il y a des choses peut-être qui peuvent être à prendre ou à laisser, ou aussi à monnayer, mais c'est quand même intéressant à noter. Il dit ici, éviter d'être dévalorisant pour l'enfant. À mon avis, il y a des cas où on peut le faire, mais ça veut dire qu'il faut quand même, il met l'accent sur un point, d'éviter de l'être trop souvent, parce que sinon vous risquez d'éteindre complètement votre enfant. Voyez. Alors, il donne après des exemples concret et amusant parfois. Donc il dit, il est préférable de dire à un enfant, je suis fâché contre toi et je veux que tu ranges tes jouets maintenant, plutôt que de dire, espèce de sale feignant, pourquoi est-ce que tu ne fais jamais ce qu'on te dit? Ou alors, faut encore moins dire, tu es aussi nul que ton père. Ou pourquoi tu ne peux pas être aussi mignon que ton petit frère? Donc éviter les comparaisons. Alors évitez aussi, bien sûr, face à votre fille qui est adolescente et qui est un peu mal dans sa peau à cet âge-là, de lui dire « Ah, vous comprenez, devant elle, bien sûr, elle est terriblement timide, je ne sais pas du tout comment elle va s'en sortir. » Ensuite, après, il dit également « Ne pas utiliser la culpabilité pour contrôler un enfant. » Par exemple, ne pas lui dire « Ah, tu m'épuises, c'est sûr, je vais tomber malade. » Ou alors « Tu vois ce que tu fais à ta mère ?» C'est ainsi qu'un enfant, on raconte qu'un jour, il se confesse. Et puis, donc dans sa confession, il dit « Voilà, j'ai menti, j'ai désobéi, je me suis parfois disputé avec mes frères et sœurs. » Et puis après, il ajoute « J'ai tué ma mère 3 fois. » Comment tu peux répéter là ce que tu viens de dire? Ben oui, j'ai tué ma mère 3 fois. Ah bon? Alors en ce moment-là, il pose la question, mais enfin, explique-toi donc un peu mieux. Alors après, le prêtre comprend que à 3 reprises, depuis la dernière confession, la maman lui avait dit « Ah, mais enfin, tu me tues !» Ah, j'ai tué 1 fois. Mais enfin, sois calme, tu me tues. Ah, j'ai tué ma mère 2 fois. Donc, il avait tué sa mère 3 fois depuis la dernière confession. Ensuite, après, il dit aussi, se mettre en colère contre des enfants ou à côté d'eux n'est pas mauvais. Au contraire, les enfants ont besoin d'apprendre qu'on peut se mettre en colère, décharger sa tension et se faire entendre en toute sécurité. Elisabeth Kubler-Ross dit que la vraie colère dure 20 secondes et consiste essentiellement en production sonore. Le problème survient quand les messages positifs « tu es formidable, on t'aime, on s'occupera de toi » ne sont pas aussi fiables ni aussi puissants donc que les formes négatives. Presque tous les enfants sont très aimés, mais beaucoup d'entre eux ne le savent pas. Beaucoup d'adultes finiront leur vie en pensant qu'ils ont toujours été un fardeau pour leurs parents et qu'ils les ont déçus. Donc d'où l'importance, en tout cas, dans l'éducation, de se dire, eh bien, il faut bien sûr que je mette l'enfant en garde contre certaines choses, bien sûr qu'il faut que je lui fasse des remarques lorsqu'il n'agit pas bien, mais il faut aussi que je lui fasse des remarques lorsqu'il agit bien. Et donc d'essayer de faire en sorte qu'il y ait au moins autant de notes positives que de notes négatives. Même quand bien même les notes positives sont des choses qui sont en soi normales, je dirais. Lorsqu'un enfant fait bien, lui dire c'est bien, tu as bien fait mon enfant. Et donc ça l'encourage. Mais... Tandis que si vous faites des remarques quand ça ne va pas, eh bien l'enfant aura plus de mal ensuite après à être lui-même bien équilibré. Oui. Après, il dit aussi, donc, donner des instructions claires, donc des ordres précis. Donc ça, c'est sûr que si on veut que l'enfant puisse bien faire ce qu'on lui demande, il faut bien lui dire clairement ce qu'on veut. Si on ne dit pas clairement ce qu'on veut, ben, faut pas s'étonner qu'il n'a pas bien forcément accompli la chose qu'on lui demande. Donc là, il prend après l'exemple du promenade en bateau. Il dit, il est mieux de dire, Lucie, tiens-toi au bord du bateau avec les mains, plutôt que, attention de ne pas passer par-dessus bord. Ou pire encore, tu t'imagines, moi, ta pauvre maman, si jamais tu te noies. Alors après, encore d'autres exemples qu'il donne. Savoir être positif. Dire par exemple, tu débordes d'énergie. Est-ce que tu pourrais ralentir un peu pour moi? Ou alors, comme c'est bien, tu n'as cassé qu'un côté du pichet. Voilà. Alors ensuite, après aussi, une autre question que posent les parents parfois. Bon, ben, j'ai un enfant qui est... Donc il y a régulièrement, donc il se met dans tous ses états. Qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer de faire en sorte qu'il soit plus calme? Donc comment faire face à la crise de rage? Ne laissez jamais une crise devenir rentable pour l'enfant. S'il en commence une, ne vous en occupez pas ou mettez-le en lieu sûr, selon les circonstances. Lorsque c'est fini, tirez les conséquences pour le long terme. C'est le bon moment pour s'assurer qu'ils sauront s'y prendre autrement une prochaine fois, pour obtenir ce qu'ils veulent. Intervenez d'emblée quand vous sentez que l'enfant est en train de mijoter une crise. Prenez-le au dépourvu. Enfin, évitez dans la mesure du possible les situations éprouvantes pour vous et votre enfant. La crise de rage n'est pas une étape indispensable du développement de l'enfant. La plupart des enfants essaieront, mais si nous y faisons face d'emblée, cela leur passera vite. Ensuite, après, autre cas de figure, la séance de bouderie. Comment l'arrêter? La bouderie ne fonctionne que si les parents culpabilisent. Et l'enfant apprend vite à exploiter cette culpabilité. Si nous procurons amour et attention à un enfant qui boude, il en retient une équation simple. On obtient de l'amour quand on a l'air malheureux. Donc si on veut qu'on s'occupe de nous, il suffit de nous écrouler et de peaufiner nos attitudes négatives. Alors les gens nous donneront de l'attention en abondance. L'ennui, c'est que ça devient un mode de vie. Avec la bouderie, on se trace une carrière de pleurnichard. Si un enfant boude près de moi, je lui dis, tu es quelqu'un d'important pour moi. J'aimerais t'aider. Réfléchis à ce que tu veux vraiment, tu me trouveras dans la cuisine. Et je le laisse. En général, il vient vers moi et s'exprime plus directement. Alors je l'aide volontiers. En l'absence de témoins, la bouderie, ça devient ennuyeux. Alors ensuite, après, vous avez donc l'enfant, donc encore très classique, hein. Donc qui traîne toujours pour ranger ses affaires, et donc du coup la maman s'énerve, s'agace, et donc là il va donner des conseils pour essayer de faire en sorte de ne pas s'énerver, facile à dire. Donc quel est le mode d'emploi? Alors il dit ceci. Donc il va montrer qu'il y a donc différentes attitudes des parents vis-à-vis des enfants. Des attitudes d'ailleurs qui seront les parents à certains moments auront une attitude, à d'autres moments ils auront une autre, donc toutes les attitudes peuvent exister, donc existent même chez les parents, mais ensuite ils montrent que la meilleure attitude, c'est donc l'attitude, ce qu'il va appeler de fermeté. Donc là, il y a une attitude d'agressivité, donc vis-à-vis des enfants, donc on est vraiment en colère mais on n'arrive pas à se maîtriser, une attitude de passivité, on laisse faire, et l'attitude de fermeté. Et ils montrent que l'attitude, la bonne, c'est la fermeté. Face à un problème particulier, disons. Le parent agressif choisit l'attaque physique ou verbale pour abaisser l'enfant. Le parent passif laisse l'enfant lui marcher dessus. Il cherche à reprendre le contrôle que quand la goutte d'eau fait déborder le vase, sous la forme d'une explosion inattendue. Le parent ferme est très différent. Il est clair, assuré, résolu. Et au fond de lui, relativement détendu et confiant. Son enfant découvre que ce que dit papa ou maman va de soi. Mais en même temps, il sait qu'il ne sera pas rabaissé ni humilié. On ne rencontre pas tous les jours des personnes capables de fermeté, et vous ne disposez peut-être pas de beaucoup de modèles à imiter. Si vos parents étaient agressifs, il peut être particulièrement difficile pour vous d'être ferme. L'important, c'est de considérer la fermeté comme un savoir-faire, et non comme une qualité que l'on possède en naissant. Cela signifie que vous pourrez l'apprendre avec le temps, il y a de l'espoir. La fermeté réside aussi dans l'action, dans ce que vous faites concrètement. Voici comment obtenir un comportement correct d'un enfant habitué à désobéir ou à faire traîner les choses. Premièrement, il y a 5 points à retenir. Premièrement, soyez clair dans votre tête. Ce que vous demandez à votre enfant n'est pas une requête, ce n'est pas ouvert à discussion. C'est une demande que vous êtes en droit de formuler et l'enfant trouvera un bénéfice à prendre l'habitude d'y répondre. Deuxièmement, soignez la qualité du contact. Arrêtez ce que vous êtes en train de faire, allez près de l'enfant et faites-le vous regarder. Ne donnez l'instruction que quand il vous regarde. Troisièmement, soyez très clair. Dites, je veux que, par exemple, tu ranges tes jouets maintenant. Tu comprends ? Exigez une réponse positive ou négative. Quatrièmement, s'il n'obéit pas, répétez ce que vous attendez de lui. Ne discutez pas, ne raisonnez pas, ne vous fâchez pas et n'ayez pas peur. Respirez lentement et profondément pour rester sereine. Le signal que vous envoyez alors à votre enfant, c'est que cette fois, vous avez l'intention d'insister sans même vous énerver. C'est l'étape décisive. Et ce qui est le plus important, c'est ce que vous ne faites pas. Vous n'entrez pas dans une négociation ou une dispute. Vous ne vous échauffez pas. Vous répétez simplement votre demande à votre enfant. Cinquièmement, restez à proximité. S'il y a le moindre risque que l'enfant n'accomplisse pas la tâche jusqu'au bout, quand elle est terminée, par exemple ranger les jouets, n'en faites pas non plus tout un plat. Dites simplement en souriant, c'est bien. Il s'agit là d'une procédure éducative. Les premières fois, ça peut prendre du temps. Vous vous direz, bah zut alors, c'est bien plus facile de ranger moi-même les jouets. Mais le temps que vous aurez investi ces fois-là sera rattrapé 1000 fois plus tard. L'astuce consiste à persévérer. Quand l'enfant se rend compte que vous n'allez pas baisser les bras, lui offrir en spectacle une mini-crise nerveuse, ou vous laisser détourner de votre objectif, alors il cède naturellement. Bientôt, vous verrez, vous allez adopter un ton de voix, une attitude avec votre enfant qui voudront dire « je ne joue pas ». Un ton différent de celui que vous utilisiez pour discuter, vous distraire ou jouer avec lui. L'enfant va reconnaître le ton comme signifiant tout de suite. Et il va le faire, joie et bonheur. Donc voilà un petit peu des conseils qui sont donnés. Maintenant, après, dans ce livre-là, donc c'est là qu'on voit dans les livres d'aujourd'hui, il y a souvent à prendre et à laisser, des considérations qui sont très méprisantes pour le passé. Voici ce que dit l'auteur. Jusqu'au XXe siècle, les enfants ne posaient pas de gros problèmes. Les 2/3 mouraient, les autres étaient traités avec indifférence jusqu'à la puberté. Ils passaient alors dans le camp des adultes. La violence était le mode de discipline usuel. C'était le temps où l'on envoyait des gosses de 7 ans au fond des mines, non ventilées, ou 10 heures par jour devant les machines dans les usines. L'enfance a fait des progrès. Alors, comme caricature du passé, c'est quand même pas... Je vais vous lire après ce que dit Saint Jean Chrysostome au IVe siècle, vous voyez, pour voir que ce qu'il croit être une invention du XXe siècle est loin d'être le cas. Dans les années 50-60, on a vu surgir la grande époque de l'enfant roi. Comme à chaque mouvement novateur, on a laissé le balancier aller trop loin. Les jeunes se sont retrouvés en position d'être les personnes les plus importantes de leur famille. Inutile de dire que ce n'a pas été fantastique pour eux non plus. Puis on a trouvé le juste milieu. Nous sommes en train d'apprendre à donner à la fois de l'affection tendre et de l'affection dure, et nos enfants commencent à se stabiliser. Bof. La façon d'éduquer les enfants autrefois, encore une perle dans le livre, dont j'ai pris tous les passages les plus saillants, la façon d'éduquer les enfants autrefois se résume dans cette attitude. Dites-leur qu'ils sont mauvais et ça les rendra bons. C'était le Moyen-Âge de l'éducation enfantine dont nous commençons tout juste à sortir. Le prédicateur à l'ancienne qui promettait l'enfer à tous en tonnant « Vous avez péché » avait la partie belle, tout le monde est coupable de quelque chose. Et après aussi, il dit « Ça y est, il a découvert maintenant donc des découvertes fantastiques sur les différentes émotions. » Il dit « On distingue 4 types d'émotions de base, la colère, la peur, la tristesse, la joie. » En fait, il en a oublié quelques-unes puisque saint Thomas donc, cite non pas 4 mais 11 passions. Enfin, peut-être que les 7 autres, ils les découvriront dans les 20 années à venir, on va voir. Ensuite, alors maintenant je vais mettre en comparaison, si vous voulez, ici, et je terminerai par là, donc des réflexions de Saint Jean Chrysostome, où il donne des conseils justement pour l'éducation. Vous voyez. Je ne cesse de vous exhorter, de vous prier, de vous supplier pour qu'avant toute chose, vous fassiez de bonne heure l'éducation de vos enfants. Si en effet tu as souci de ton enfant, prouve-le de cette façon. D'ailleurs, tu en seras récompensé. Écoute saint Paul disant, s'il persévère dans la foi, la charité, la sainteté, unis à la modération dans les désirs. Même si tu as conscience de tout le mal qui est en toi, songe cependant que tu as en quelque sorte une consolation à ce mal. Élève un athlète pour le Christ. Je ne te dis pas, détourne-le du mariage, envoie-le dans la solitude, prépare-le à mener la vie des moines. Non, je ne dis pas cela. Je le désire et je souhaiterais que tous embrassent cette vocation. Mais puisqu'elle semble un fardeau, je n'exerce pas de contrainte. Élève un athlète pour le Christ et apprends-lui à avoir, tout en restant dans le monde, la crainte de Dieu dès son jeune âge. Si l'âme encore tendre reçoit l'empreinte de bons principes, personne ne pourra les effacer. Lorsqu'ils seront durs comme une empreinte, ce qui se passe pour la cire. Si tu as un fils vertueux, tu es le premier à profiter de ses bonnes dispositions, et Dieu ensuite. C'est pour toi que tu travailles. Comment cela se réalisera-t-il? Et par quels moyens ferons-nous leur éducation? Si nous exerçons un contrôle sérieux sur ce qui se passe. En effet, l'enfant est dans des dispositions tout à fait favorables. Comment cela? C'est qu'il n'est pas engagé dans la lutte pour obtenir richesse, gloire, puisqu'il est encore un petit enfant. Il ne s'agit pas pour lui ni de femme, ni d'enfant, ni de maison. Quelle raison aurait-il d'être insolent ou de calomnier? C'est seulement avec les enfants de son âge qu'il se dispute. Établis donc rapidement une loi. N'insultez personne, ne calomniez personne, ne pas prononcer de faux serments, être exempt d'agressivité. Si tu le vois transgresser la loi, réprimande-le, tantôt par un regard sévère, tantôt par des paroles mordantes, tantôt par des reproches. D'autres fois, flatte-le et fais-lui des promesses. Pas de châtiment corporel sans trêve. Ne l'habitue pas à ce moyen d'éducation, car s'il apprend à être continuellement corrigé par ce moyen, il apprendra aussi à mépriser la correction. Et s'il apprend à la mépriser, tout est perdu. Au contraire, qu'il craigne toujours les coups, mais qu'il n'en reçoive pas. Qu'on agite le fouet, mais qu'on ne frappe pas. Que les menaces ne soient pas mises en exécution. Qu'il s'attende donc à être corrigé, mais qu'il ne subisse pas la correction, de façon que la crainte ne s'éteigne pas, mais qu'elle demeure comme un feu qui grandit et qui, de tous côtés, brûle toutes les épines. Cependant, quand tu vois qu'il a tiré profit de la crainte, relâche. Car notre nature a besoin d'une certaine détente. Vous voyez, c'est des conseils adaptés et très équilibrés qu'on peut voir ici en Saint-Jean-Chrysostome. Vous voyez, donc, ça, c'était le 4e siècle. Donc, il ne faut pas quand même dire qu'il a fallu attendre les années 1970 pour découvrir comment on doit éduquer les enfants. Ensuite, après, il dit aussi ceci, donc, montrant bien qu'il connaît bien la nature humaine, il parle des faiblesses qui existent chez les jeunes gens et chez les jeunes filles. Il dit, ce qui trouble les jeunes gens, c'est l'ardeur des sens, ce qui trouble les jeunes filles, c'est le goût de la parure et de tout ce qui excite la vanité. Également aussi, donc, il met en garde les parents, donc dans l'éducation des enfants, de faire en sorte qu'ils ne voient pas donc, des choses qui peuvent ensuite produire en eux de mauvaises pensées. Et en même temps aussi, il dit qu'on détruit bien donc, le mal que parce qu'on le remplace. Et donc, par conséquent, il demande que les enfants voient de belles choses pour qu'ils soient attirés par ces choses qui sont belles. Vous voyez. Donc, il dit, donc, tout d'abord, la mise en garde, il y a encore une autre porte plus éblouissante que les précédentes, mais plus difficile à garder, celle des yeux. À cause de cela, elle s'ouvre en haut et possède un élément de beauté. Elle a de nombreux guichets. Elle ne fait pas que regarder. Elle attire les regards quand elle a été bien sculptée. Il faut ici des lois sévères. Et la première, c'est de ne jamais envoyer l'enfant au théâtre pour ne pas l'exposer au mal sous toutes ses formes, à la fois par l'ouïe et par les yeux. Que le pédagogue veille surtout à cela en allant sur les places publiques par des rues étroites et qu'il fasse des recommandations sur ce point pour que l'enfant ne soit pas exposé un jour à ce mal. Et puis après, il dit, montre-lui, d'autre part, de belles choses. Tu détourneras ainsi ses yeux vers le ciel, le soleil, les astres, les fleurs qui poussent sur la terre, les prairies, les livres rehaussés de beaux dessins. C'est cela qui doit charmer ses yeux. Il y a d'ailleurs beaucoup d'autres choses à voir qui ne comportent pas de danger. Cette porte est difficile à garder, car elle renferme le feu de la concupiscence à l'intérieur. Qu'il apprenne les chants divins, et puis etc. Donc encore beaucoup de conseils qui sont donc, tout à fait adaptés pour l'éducation des enfants. Alors, ensuite. Après avoir parlé donc du rôle de l'épouse et de la mère, juste pour terminer, un petit mot sur le rôle de la femme en tant que servante, en quelque sorte. La Sainte Vierge dit qu'elle est Ancilla Domini, donc la servante. Donc le rôle de la femme dans le domaine des charges de la vie domestique. La femme est la reine du foyer, et donc dans ce domaine, elle a aussi donc un rôle très important. Donc, il est très important pour elle qu'elle sache bien organiser sa journée et donc qu'elle ait aussi une certaine régularité dans ce domaine pour bien pour que les choses se passent le mieux possible. Donc, c'est vraiment le rôle de la femme de créer cet ordre dans le domaine dans la vie familiale. Donc, c'est important de bien déterminer la mesure de toute chose, c'est-à-dire quand on veut organiser sa journée, donc qu'est-ce qu'il faut que je fasse aujourd'hui? Bon, il y a des choses qui sont indispensables, et puis après, il y a des choses qu'on peut ajouter. Donc, il faut essayer de voir les choses par ordre d'importance et aussi d'urgence. Donc, essayer de réfléchir au temps qu'il convient de donner à chaque chose et voir quelles sont les priorités. Et puis ensuite, après, ce qui est plus délicat, c'est d'apprendre à prévoir les imprévus. Parce que bien sûr, si vous mettez, comme dans une valise, si vous mettez trop de choses dedans, bien après, il n'y a plus de place. Donc, si vos journées sont, vous mettez trop de choses dans votre emploi du temps, eh bien, c'est sûr qu'il y aura un effet de stress qui arrivera assez facilement parce que s'il y a des ajouts déjà sur une journée qui est déjà archi pleine, ça provoquera une tension intérieure en vous. Ça, c'est clair. Donc, il faut essayer de faire en sorte, après, en se connaissant, en connaissant son genre de vie, en connaissant les imprévus classiques que l'on a, de ne pas avoir des journées, au départ, au moins trop remplies, pour pouvoir mieux gérer donc ces imprévus qui vont s'ajouter. Vous voyez. Un exemple concret, si vous voulez, qui vous aide à le comprendre, un autre exemple. Si vous savez qu'il faut tant de temps pour aller d'un point à un autre en voiture, et si vous partez avec 10 minutes de retard, c'est sûr que vous serez stressé sur la route. Donc, si vous savez que vous êtes toujours en retard, il faut toujours partir avec toujours plus d'avance pour essayer d'arriver à l'heure. Ça, c'est clair. On voit par exemple pour la messe, ce sont en général les mêmes familles qui arrivent une demi-heure en avance, 10 minutes en avance, 5 minutes en avance, juste à l'heure, 5 minutes en retard, 10 minutes en retard, un quart d'heure en retard. Et après, j'en parle plus. C'est comme ça. Mais c'est certain que si vous êtes toujours en retard, vous êtes toujours en train de courir, et donc il y a une tension qui est là, quoi. Donc il faut se dire, si je veux être moins tendu, ben, il faut que j'apprenne à mieux gérer mes plages horaires, bien sûr. Ouais. Et puis également, dans l'emploi du temps, il faut essayer de gérer donc un emploi du temps de telle sorte qu'il soit des repères qui soient suffisamment fixes pour pouvoir vous aider. Il y a en même temps donc une certaine souplesse pour pouvoir ensuite, après, donc gérer les imprévus. Et ne jamais oublier aussi donc de prévoir les moments de détente qui sont aussi importants, parce que si un arc est trop tendu, eh bien après, il finit par craquer. C'est ce que dit Saint Jean l'Évangéliste à certains de ses disciples qui se choquaient qu'ils prenaient des moments de récréation. La régularité est aussi capitale pour avoir donc certains repères. Et donc, la femme doit être non seulement donc la reine du foyer et l'âme du foyer, mais aussi l'horloge du foyer. Oui, mais si vous saviez le mari que j'ai, bien sûr. Bon, peut-être, peut-être, c'est possible. Mais enfin, non, je vous rappelle les principes. C'est sûr qu'une vie réglée favorise la santé et l'équilibre et évite beaucoup les pertes de temps et donc bien des énervements. Donc, s'il y a cette régularité pour le repas, pour le coucher des enfants, pour le lever, pour les commissions habituelles, eh bien, les choses se passent toujours bien mieux, quoi. Je vois par exemple ici au séminaire, les séminaristes qui ont été étudiants avant ont parfois des vies un peu décousues et quand ils arrivent au séminaire, au début, bon, ils sont un peu perdus par cette horloge, mais ensuite, après, ils disent qu'on fait une foule de choses quand on est vraiment bien organisé, quoi. Donc, ils apprennent avoir des vies bien remplies. Donc, Et dans l'accomplissement de son devoir, deux choses qu'il faut éviter ensuite, après une fois qu'on a fixé ses devoirs, l'empressement et la négligence. Alors l'empressement, eh bien, c'est le défaut classique d'aujourd'hui, on court tous à 100 à l'heure. C'est le défaut de Marthe, où notre Seigneur lui dit « Marthe, Marthe, pourquoi te troubles-tu ? Une seule chose est nécessaire. » Donc c'est une forme d'activisme qui est liée au fait qu'il y a beaucoup de choses à faire, et parfois il y a en plus beaucoup d'enfants, donc c'est compliqué. Mais il faut éviter, en tout cas, apprendre à éviter l'empressement. Alors, quelques indices. Si vous ne prenez pas le temps de faire prier vos enfants, si vous ne prenez pas le temps d'accueillir votre mari lorsqu'il rentre du travail, ou que vous vous épuisez tellement que vous en arrivez à n'avoir plus la volonté de donner à chacun de vos enfants les marques d'affection dont il a besoin, eh bien, ce sont des signes qui montrent qu'il y a peut-être des choses à changer dans votre emploi du temps. Oui. Donc, pensons toujours que nous ne sommes que des instruments, l'instrument du bon Dieu. Donc, c'est le bon Dieu qui vous a confié vos propres enfants. Et vous n'êtes qu'un instrument pour essayer d'en tirer le meilleur d'eux-mêmes. Et pour cela, c'est vrai qu'il faut éviter l'agitation. Essayez, par exemple, de labourer un champ avec un cheval qui est agité. Je vous souhaite bon courage, quoi. Ça, c'est sûr. Et puis, après, souvent, ça arrive assez souvent, que les phases d'empressement, ensuite, après, des phases de négligence. Parce qu'après, on est tellement débordé que finalement, on se laisse aller. Donc du coup, y a encore de nouvelles pertes de temps. Souvent, l'un conduit à l'autre. Donc là aussi, il faut repérer s'il y a des phases où vous laissez parfois un petit peu trop aller, quoi. Voilà. Donc en conclusion, eh bien, puisse cette retraite vous aider pour celles d'entre vous qui sont aujourd'hui épouses et mères, donc à toujours être de meilleures épouses et de meilleures mères de famille. Alors c'est vrai, comme je l'ai dit aussi, j'ai conscience que plusieurs d'entre vous ne sont pas directement concernés par cela, mais bon, dans une retraite, c'est quand même bien de réfléchir à ces choses. Et donc que la Sainte Vierge puisse être toujours votre guide, quelle que soit aujourd'hui votre vocation. Voilà.